l'école, il y a deux Arabes. Ils s'appellent Omar et Mohamed. Et on est arabe en secret. On est des Arabes et on s'appelle à nos prénoms arabes.
Et pourquoi, ça veut dire quoi que vous êtes des Arabes en secret?
C'est parce qu'on ne veut pas que les autres ils le sachent et on se retrouve en secret tous les trois pour dire des choses arabes.
Et pourquoi vous voulez pas que les autres le sachent?
Parce que tout le monde croit qu'on est des Français.
Ah oui?
Oui.
Et du coup, vous vous retrouvez entre vous pour vous souvenir que vous êtes arabe?
Oui, tous les jours, sauf les vacances.
Et t'as moi?
Oui. Okay. C'est trop bien.
On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on devient pas du même game, marocaine de Ketama, on ne fait pas la même merde.
La seule façon de combattre le racisme, la xénophobie, c'est de remettre la mémoire en place et de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, ce qui existe.
L'histoire est racontée par une bande de mythos.
Qui appelle à l'émeute, un pays sans justice est un pays en danger. La France est aujourd'hui doit prendre ses responsabilités et doit nous donner en tout cas ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on on soulève le peuple, le pays, on le fera.
C'est ma vie. Allez, wesh. C'est nos vies. Allez, wesh. C'est...
Bonsoir. Vous êtes dans la vie des nôtres ce soir jusqu'à 21h30 et un peu plus peut-être puisqu'on est un petit peu en retard. Alors bienvenue dans la vie des nôtres sur Canal Sud 92.2. Alors ce soir sur le plateau, il y a Roxane.
Bonsoir.
Fanny qui est notre invitée.
Bonsoir.
Et moi-même, June. Et puis à la technique, il y a Meriem, Farah.
Salut, salut. Bonsoir.
Et Noémie. Donc on est assez nombreuses et nombreux ce soir et on va la thématique de l'émission, c'est on va parler de l'adoption ce soir avec notre invitée Fanny. Mais avant de commencer, on va écouter la bande-annonce du film d'Amandine Gay, Une histoire à soi, et on revient très vite.
Je suis né au Brésil. J'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil. Donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année.
J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. À partir du moment où j'ai su que j'étais adoptée, donc je savais bien qu'ils étaient venus me chercher quelque part.
Quand je suis descendu de l'avion, j'ai tout de suite voulu rentrer au Rwanda.
J'ai jamais senti en fait vraiment de différence entre le fait que moi je suis adoptée et pas les autres en fait.
Je me suis construite comme une enfant blanche finalement. Comme une enfant blanche de l'intérieur et asiatique de l'extérieur.
J'aurais dû montrer différemment que j'avais besoin d'amour. La façon que j'ai adoptée, c'était de faire des bêtises.
Pour moi, ce qui fait famille, c'est les liens qu'on peut avoir avec les gens. Clairement, moi, c'est pas les liens du sang.
Niyongira, le petit Rwandais, à l'époque, je dirais que je l'ai fait taire quand même.
Toujours ce sentiment de n'être ni vraiment française ni vraiment coréenne. D'avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises, quoi. De ne pas savoir où est vraiment sa place.
Quand on parle avec les gens de l'adoption, c'est toujours grâce à nos parents, on a eu une famille. Et jamais que grâce à nous, nos parents ont eu un enfant.
On n'est pas une coquille vide qui arrive et tu le formates à ton image.
C'était un moment clé où j'ai décidé que j'allais intégrer toute cette partie de mon histoire, en faire une espèce de grande histoire avec les deux familles.
On vient de quelque part et on est le fruit d'une histoire avant et de choses avant. On vient de quelqu'un.
Bonsoir à tous. Donc ce soir dans l'émission La vie des nôtres, comme John l'a dit, on parle de la thématique de l'adoption internationale et transraciale. Donc adoption transraciale, ça signifie que les enfants adoptés n'ont pas la même racialisation que leurs parents adoptifs, comme dans le cas général où des parents blancs adoptent un enfant non blanc. Donc on avait envie de parler de ce sujet qui nous semble important dans un contexte où depuis quelques années, la parole des personnes qui ont été adoptées est devenue audible dans les médias français. De nombreux groupes dénoncent notamment les vols d'enfants dans les pays du Sud par des organismes d'adoption pour placer ces enfants à l'adoption dans des pays du Nord. Donc ça, c'est les choses dont on entend le plus parler dans les médias. Des groupes de parole d'adoptés deviennent des groupes politiques et font émerger des questionnements et des constats qui prennent à contre-pied l'imaginaire véhiculé sur les adoptés et leurs problématiques. Donc il y a plusieurs d'entre nous dans l'émission, et Fanny également, qui avons vu le film sur l'adoption internationale « Une histoire à soi », réalisé par Amandine Gay et sorti en salle en juin de 2021. Donc c'est ce film dont on vient d'écouter la bande-annonce en intro. Donc il fait le portrait de 5 jeunes adultes adoptés en France et en Suisse. On y suit leur parcours et leurs voix différentes qui se répondent et tissent une trame des questions qui traversent les adoptés. Elle a sorti aussi un livre sur le même sujet, intitulé « Une poupée en chocolat » et paru en septembre aux éditions La Découverte. Donc il y a eu une présentation de ce livre à Terra Nova en sa présence et vous pouvez la visionner sur TV Bruit. Donc elle a évoqué combien les recherches sur leurs histoires par les adoptés pouvaient leur faire faire face à plus de questions que de réponses. Et dans l'équipe, nous ne sommes pas concernés par cette question, nous ne sommes pas spécialistes et nous aurons sans doute que peu de réponses et beaucoup de questions. Donc, on va pouvoir poser des questions à Fanny, qui fait partie de l'association La Voix des Adoptés, et à qui nous pourrons les poser. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce film.
Oui, bah, c'est vrai que ce film, moi, je l'ai vu donc, à un moment, une présentation. Il y avait aussi Amandine Gay qui était présente, donc c'était aussi bien qu'elle puisse aussi parler de tout le processus. Voilà, parce que c'est un film d'archives, et donc c'est vrai qu'on est plongé un peu dans des images d'enfants dans les années 80, et puis voilà, ça suit cinq personnes et qu'on voit aussi l'évolution, et voilà quoi. Donc moi je trouvais que c'était vraiment assez chouette ce film, et que c'est vrai que il fallait aussi trouver des gens qui avaient autant d'archives à donner pour un film. Et que ça pouvait être pas évident. Comme moi, ce qui m'a aussi marqué dans comment elle expliquait, comment elle a fait ce film et les personnes qu'elle a interviewées, c'était aussi beaucoup d'exposition pour les personnes. Voilà.
Donc, toi, Fanny, tu es revenue dans les studios parmi nous. tu l'as vu, est-ce que ça t'a plu ce film ?
Oui, donc j'ai vu le film de Amandine Gay. Effectivement, c'était un film documentaire très intéressant, notamment parce que il y a deux personnes comme Joey qu'on connaît même de vue ou de nom dans le monde de l'adoption, l'adoptée, si je ne me trompe pas, d'Inde, l'adoptée qui vit en Suisse, qui elle aussi a été très active dans des associations d'adoptés. Donc, si on connaît bien le monde de l'adoption, on les connaît un peu de nom et on connaît un peu leur parcours. Et c'est vrai que je trouve ça bien pour une fois de pouvoir justement donner la voix aux adoptés, parce qu'on a beaucoup de documentaires sur les parents, comment ils vont adopter, leurs recherches, comment tout le processus, tout le procédé de l'adoption du point de vue des parents, mais il y a très rarement des documentaires sur le point de vue des personnes adoptées.
Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton association, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Fanny, je suis adoptée de Haïti je fais partie, je suis bénévole à La Voix des Adoptés, qui est une association qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Cette association organise des groupes de parole ou des événements conviviaux pour les adoptés, les personnes adoptées, afin de pouvoir se rencontrer, discuter, échanger sur différents thèmes, mais toujours d'un point de vue d'une personne adoptée. Cette association aussi, elle faisait partie de plusieurs organismes, comme par exemple le CNPE. Mais maintenant, à la suite, justement, comme on est en début d'année d'association pour la nouvelle année, on en est en train de remanier un petit peu l'association. Donc, il y a des décisions à prendre si on reste ou pas dans certains organismes. Et du coup, on a décidé de se recentrer vraiment sur tout ce qui était groupe de parole et événements conviviaux pour les adoptés.
D'accord. Du coup, ce genre d'organisme, c'est des organismes institutionnels ou...
Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est des organismes institutionnels. Donc, on faisait partie du CNPE, qui est le Conseil national pour la protection de l'enfance. Donc, du coup, normalement, l'adoption est un système de protection. Donc, c'est pour ça qu'on en faisait partie avec l'association, la présidente de la fédération EFA, Enfance et Famille et Adoption, pour d'un point de vue des parents qui adoptent. On faisait aussi partie de la COFRAD pour les droits des enfants. Et on était justement interrogés par le gouvernement, des membres du gouvernement, sur différents sujets, comme par exemple quand il y a eu le projet de loi de Madame Limon ou son rapport, le rapport Limon-Imbert. On a été contactés pour être interrogés justement sur l'adoption et les conséquences pour les personnes qui ont été adoptées, afin de mieux étayer son rapport.
D'accord. Du coup, vous avez une action un peu d'information, de conseil et de lobbying auprès du gouvernement, mais là, vous avez plutôt envie de vous recentrer sur...
C'est ça, parce
sur
que...
Sur les groupes de parole, ouais.
C'est ça, on a plutôt envie de se recentrer parce que au niveau des effectifs, on n'a pas forcément beaucoup de bénévoles. Et ça demandait vraiment parfois des sujets avec des spécialisations et des connaissances qu'au sein de l'association, on n'a pas forcément en tant que bénévole, puisqu'on vient de tout bord, de tout métier. Donc là, c'était parfois des choses plus légales, plus techniques, qui demandent du temps, qui demandent aussi d'être assez disponible. Et en tant que bénévole, malheureusement, on n'a pas forcément ces opportunités-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de se recentrer, parce qu'on sentait en même temps qu'avec la période qui s'est passée, le confinement, on n'a pas eu l'opportunité justement de pouvoir se réunir comme on le faisait d'habitude. Maintenant, nos activités, elles seront plutôt par Zoom, donc c'est moins convivial parce qu'on ne se voit pas, mais on essaie quand même de pouvoir garder un contact avec les personnes qui sont en demande, de pouvoir rester en contact avec nous et de pouvoir quand même... essayer de proposer des événements.
Ok, super. Et tu m'as dit aussi que tu orientais, tu répondais aux questions des personnes adoptées dans leur recherche de leur histoire du côté de leur famille biologique.
Oui, la plupart des personnes, quand elles arrivent au sein de l'association ou qu'elles contactent l'association, l'une des principales questions, c'est vraiment la recherche sur les origines, sur si on a des méthodes, si on connaît bien les lois, si on a des contacts parfois dans les pays d'origine. Actuellement, on a un contact au Brésil et... des bénévoles du Guatemala ont créé un partenariat avec une association du Guatemala qui s'appelle La Liga, qui aide à la recherche des origines et qui est aussi très active au Guatemala concernant les enfants volés du Guatemala.
D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton propre parcours d'adopté et ce qui t'a amené à faire partie de cette association ?
Oui, donc moi j'ai été adoptée donc à 2 ans et demi, donc je l'ai dit, je suis originaire d'Haïti. Mes parents, donc je suis la deuxième enfant adoptée, mes parents avaient déjà adopté mon frère, mais c'est pas mon frère biologique, c'est mon frère parce qu'il fait partie de ma famille. Donc ils avaient déjà adopté donc un premier enfant, et donc ils avaient envie d'un deuxième enfant. Mon frère vient aussi d'Haïti, donc mes parents sont passés par ce qu'on appelle une OAA, un organisme agréé à l'adoption. Donc c'est des associations qui doivent avoir un agrément du gouvernement pour aider les personnes qui souhaitent adopter à être leur contact sur place dans le pays dans lequel ils choisissent d'adopter. Donc mes parents voulaient adopter en Haïti. Je suis arrivée en 91 en France, donc à l'âge de 2 ans et demi. Malheureusement pour moi, ma relation avec mes parents adoptifs s'est très mal passée. Donc, à 12 ans, j'ai été placée et depuis, je ne vois plus mes parents, je ne suis plus en contact avec eux. Et en 2016, j'ai décidé de faire la recherche de mes origines. Donc, je suis partie en Haïti pendant un mois et j'ai retrouvé ma famille biologique avec qui je suis en contact de temps en temps encore maintenant.
D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu... la recherche de tes parents biologiques ou nous raconter et ou ce que tu préfères, nous raconter les deux, nous raconter un peu ton parcours d'enfant adopté auprès de ta famille adoptante en France.
Mais du coup, j'ai parlé en premier donc la recherche des origines. Quand on est adopté, en tout cas, de ce que je vois quand j'organise des rencontres ou en discutant avec les adoptés, c'est qu'il y a des périodes, où on a envie de chercher, il y a d'autres périodes où on ne peut pas trop entendre parler du pays. Donc là, j'étais dans une période de recherche et au moment où j'étais dans cette période de recherche, donc l'association par laquelle mes parents sont passés a une page Facebook où les gens peuvent raconter leur voyage, poster des informations sur Haïti, sur l'adoption, enfin tout ce qui passe... toutes leurs envies sur ce groupe. Et une personne postait justement qu'elle revenait d'Haïti à la suite d'un voyage pour justement rencontrer la mère biologique de sa fille. Donc, comme j'étais en plein questionnement, j'ai posé toutes les questions sur comment c'était organisé, comment est la vie en Haïti et tout ça, parce que malheureusement, moi, mes parents m'ont jamais donné une bonne image d'Haïti. Donc, ce n'était pas forcément un pays qui m'intéressait. Je ne voulais pas trop en entendre parler. Mes parents me disaient que c'était la misère, c'était la guerre. Enfin, personne n'a envie d'aller dans un pays où on parle aussi négativement. Alors que, dans un autre côté, j'avais à l'époque des connaissances antillaises. Et elle me parlait d'Haïti, mais comme si c'était un pays magnifique. C'est trop beau, les plages, la nourriture, les plats. Et moi, j'avais du mal à le croire parce que j'étais mais non, c'est trop triste, il y a la guerre, il y a des maladies, il n'y a pas d'électricité. Enfin bref, donc je lui ai posé toutes ces questions. Et elle m'a donné un contact d'un haïtien qu'elle avait rencontré lors des recherches justement de la mère biologique de sa fille. Je suis rentrée en contact avec lui, j'ai un peu expliqué mon but et que j'étais en pleine recherche. Et le principal pour moi, c'était de trouver la ville dans laquelle j'étais née, parce que vraiment par toutes les recherches, je n'ai jamais réussi à trouver. Alors que sur Google, on trouve tout et n'importe quoi. Donc là, j'arrivais pas à trouver. Et du coup, il a fait ses recherches pour moi. Il s'est déplacé. Et un jour, il m'a juste envoyé la photo, une butte avec un palmier. Il m'a dit, c'est là où t'es né. Et ça a été le déclic chez moi. J'ai reçu cette photo au mois de juillet. Au mois de septembre, j'ai acheté mes billets. Au mois de mars, j'étais partie.
Ça allait très vite.
Oui.
La photo a fait déclencheur.
C'est exactement ça et je sentais vraiment que c'était le bon moment. Donc bon, après quand même, je me suis organisée. J'ai aussi été suivie par une psychologue. Bon, j'avais déjà un suivi bien avant pour d'autres soucis personnels. Mais en plus de ça, du coup, on a rajouté cette thématique pour être sûre que mon voyage se passe plutôt correctement. Parce que j'avais beaucoup de récits de personnes qui retournaient au pays et qui s'attendaient vraiment à être retrouvées comme le Messie. Et qui étaient très déçues et qui rentraient en pleine déprime. Donc je voulais absolument éviter ça. Alors que moi, j'étais en pleine, justement, reconstruction. Construction de moi-même. Et donc j'ai préparé ça, j'ai aussi préparé au niveau de la logistique, où je dors, qui m'accueille, est-ce que je vais avoir un guide, parce que bon, je voulais pas non plus, je suis partie toute seule, donc il fallait quand même un guide pour le créole, savoir où je dormais et tout ça. Donc j'ai organisé tout ça, du coup la personne qui m'a aidée, qui s'appelle Marc, qui maintenant il vit au Canada, il a été mon guide au début, juste pour me faire découvrir la capitale. Ensuite, comme j'étais en contact avec l'association, je leur ai demandé aussi un guide. Donc, ils m'ont trouvé un guide pendant les 2 semaines où je devais aller dans la ville de mes origines. Et au bout de 5 jours, après plusieurs péripéties qui sont vraiment, vraiment trop longues à raconter.
On a un peu le temps, on est là pour ça quand même.
Mais... moi, en fait, je suis partie parce que j'ai ce qu'on appelle un dossier d'adoption. La plupart du temps qu'on est adopté, on a un dossier. Moi, j'ai la chance qu'il était plutôt fourni. J'avais mon acte de naissance d'origine avec le nom de ma mère, mon père inconnu, et avec une histoire sociale qui expliquait mais pourquoi j'ai été adoptée. Donc, l'histoire, en résumé, j'étais la 5e d'une fratrie et la dernière. Ma mère avait déjà au moins 2 grands garçons scolarisés. Et du coup, elle pouvait nourrir personne parce qu'elle n'avait pas de travail. Et au moment du sevrage de l'allaitement, elle a décidé de me laisser à des personnes pour me permettre de me faire adopter parce qu'elle ne pouvait pas me nourrir et que je commençais à souffrir de malnutrition. Donc moi, dans ma tête, en tout cas, c'est mon histoire que je connais depuis toujours. Que c'est genre, pourquoi t'as été adoptée? Et je raconte ça. Et je raconte ça depuis toute petite, sans forcément comprendre ce que ça voulait dire à l'époque. Et donc, je pars avec ce dossier quand même sous les bras. Donc, à la recherche de cette femme, puisque j'avais le nom et le prénom de ma mère. J'arrive, donc Marc, qui est la personne qui m'a envoyé cette photo du quartier, il avait fait des recherches en amont, il avait trouvé un contact aussi pour moi. Donc au final, j'avais deux guides, dont un guide qui, par chance, était le fils d'un conseiller municipal ou quelque chose du genre. Donc il connaissait tout le monde. Donc j'avais besoin d'un taxi, il connaissait quelqu'un. J'avais besoin d'un bateau, il connaissait quelqu'un. J'avais besoin d'un restaurant super branché, il connaissait quelqu'un. Il connaissait vraiment toujours quelqu'un. Et du coup, avec lui, on est allé au quartier, on a demandé aux gens du quartier s'ils connaissaient une personne du même nom que ma mère. Donc les gens se souvenaient d'une femme qui portait le même prénom, mais pas forcément du nom, qui effectivement avait deux enfants à l'époque, mais qui ne se souvenait pas trop si elle avait eu une fille. Et la personne qui nous racontait tout ça, à chaque fois, c'était la doyenne du quartier. Donc une dame vraiment très âgée, mais avec toute sa tête. Et en plus, en Haïti, c'est vraiment... tout le quartier qui est, quoi. La vieille dame en parle à sa voisine, qui en parle à une copine au marché, qui en parle à quelqu'un qu'elle croise dans la rue. Et tous les jours, on allait passer lui dire bonjour. Et tous les jours, elle me donnait des nouvelles informations. Donc tous les jours, on allait vérifier ces informations à droite, à gauche, plus les informations qui étaient dans mon dossier. Bon, au final, cette ivrose, on arrive un petit peu à reconstituer son histoire. Et elle n'est plus dans la ville. Ivrose, donc c'est le prénom de ma mère. Elle n'est plus dans la ville, mais il y a sa sœur qui est dans la ville. Donc on va la voir, enfin on la contacte, on va la voir. Elle appelle sa sœur, cette fameuse Ivrose, qui finalement n'est pas la bonne. Donc retour au point de départ. Et au final, un de mes guides me dit, mais est-ce que tu as déjà cherché sur Facebook? Et j'ai dit, ah oui, j'ai déjà cherché. Et ma mère a un nom de famille particulier parce qu'elle s'appelle Jéhovah. Et en Haïti, qui est un pays très croyant de différentes croyances, il y a aussi les témoins de Jéhovah qui, quand il y a justement des catastrophes en Haïti, ils arrivent avec de l'aide, de la nourriture, et en même temps, ils en profitent pour évangéliser les gens. Et les gens, du coup, changent de nom de famille. Donc, du coup, moi, par exemple, je suis Fanny Lefebvre, mais du coup, si les Jéhovah m'aident, je deviens Fanny Jéhovah. Donc, du coup, on est même parti les voir. Donc, bon, on leur posait des questions, mais c'était pas très concluant. Et du coup, je lui dis, oui, j'ai déjà fait une recherche Facebook, mais j'ai trouvé donc des personnes qui portaient ce nom. Et en discutant avec eux, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué tout ça. Et il me dit, mais tu sais, Facebook te géolocalise, donc il te donnera toujours les personnes les plus proches de toi. Donc, du coup, je refais une recherche Facebook et je trouve juste un compte avec le nom de ma mère, nom, prénom de ma mère, un compte. Et au début, j'étais, c'est pas possible. J'ai déjà fait des recherches, j'avais jamais trouvé. Et une des premières choses que j'avais faites en Haïti pour ma recherche, c'était faire un appel à la radio sur une radio nationale qui est très, très écoutée parce qu'elle passe que des chants religieux toute la journée. Donc, c'est la radio la plus écoutée. Et donc, j'avais fait un appel radio et je me suis dit, non, ce compte, ça doit être un fake, ça doit être quelqu'un qui m'a entendu à la radio. Sauf qu'en regardant les dates de création, le compte, il avait été créé au mois de janvier 2015, alors que moi, j'ai décidé de partir en Haïti en juillet 2015. Donc, du coup, bon, on se dit, c'est pas un fake déjà. On regarde sur la photo de profil, il y a une femme qui semble plutôt jeune. Et à l'époque, quand je suis partie en Haïti, j'allais faire mes 27 ans. Donc moi, je m'attendais plutôt à une femme de 60, 70 ans, quelque chose comme ça. Là, la femme avait l'air plutôt jeune et elle était entourée de deux enfants qui avaient l'air jeunes aussi. Et donc, du coup, moi, toujours dans ma tête, j'avais cette histoire d'être au moins la cinquième. Donc au moins avoir des frères et sœurs bien, bien plus grands que moi, quoi. Donc, on regarde ce profil. Et on voit qu'elle est dans la même ville de mes recherches, donc au Cap-Haïtien. Et comme j'ai dit, un de mes guides connaissait vraiment tout le monde. Et il me dit, mais si elle est dans la même ville, il y a forcément quelqu'un dans ses contacts que je dois connaître. Donc on regarde sa liste d'amis. Il me dit, cette personne, je le connais. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais sa copine. On contacte la copine, on lui raconte toute l'histoire. On va chez elle, elle contacte son copain, on lui raconte toute l'histoire. Il vient chez sa copine, on lui dit, bon, ben, si tu es ami avec... Déjà, on lui pose la question pourquoi il est ami. Il ne sait pas trop, peut-être l'église, peut-être d'autres activités. On lui dit, toi, comme tu es ami avec elle, tu vas avoir accès à plus d'informations que moi que moi. Donc du coup, on regarde et là, en fait, toutes les questions que Facebook pose, le livre préféré, l'animal, enfin toutes les questions de Facebook, là, tout était répondu. Et il y avait forcément aussi donc, un numéro de téléphone parce que toutes les informations étaient écrites. Donc il y avait un numéro de téléphone. Donc mon guide appelle et juste comme c'était vraiment une journée où en plus j'avais vécu plein d'aventures dans cette journée-là, j'étais un peu éprouvée déjà émotionnellement, je lui ai dit s'il te plaît si tu appelles, fais bien attention à la question que tu poses, ne mets pas la réponse dans la question. Et il appelle, il met le haut-parleur, il dit juste bonjour, je suis le guide d'une fille qui vient de France. La femme, elle commence à crier des alléluia, elle commence à donner mon prénom haïtien. Mon prénom haïtien, c'est Wiljen. Elle commence à dire alléluia, vous avez retrouvé ma petite Wiljen. On lui demande ma date de naissance, elle me donne ma bonne date de naissance. Donc bon, on s'est dit, il faut qu'on rencontre cette femme parce que déjà, j'ai vraiment pas un prénom commun en Haïti. Et qui connaît ma date de naissance. Donc, on va la voir. On trouve un endroit assez sécurisé quand même pour la rencontrer parce qu'on ne sait jamais. En Haïti, qui est assez connu pour les kidnappings de personnes européennes ou occidentales, on trouve un endroit sécurisé. Et mes guides vont la voir en premier parce que moi, je ne vais pas la voir. Si ce n'est pas la bonne personne, ça va me dévaster. Donc, du coup, ils sont partis en premier. Et je suis restée 15-20 minutes à attendre dans la voiture. Mon guide Giovanni, il m'appelle, il me dit « Bon, cette femme, elle répond bon à toutes les questions, ta date de naissance, le nom des personnes témoins sur ton acte de naissance, sur un côté de l'acte de naissance, il y a aussi ma date de baptême, elle connaissait la date de baptême. » Et il me dit « Et en plus, elle a une photo de toi quand tu étais petite et une lettre de France qui lui est revenue. » Et je lui dis « Bon, je veux au moins voir la photo et la lettre, parce que déjà, je vais me reconnaître sur la photo, et puis... la lettre, j'ai pas habité dans beaucoup d'endroits en France, donc je vais connaître aussi l'adresse. » Il revient avec la photo et la lettre. La photo, c'était pas du tout moi, mais genre pas du tout. Ça me ressemblait pas, mais comme j'ai très peu de photos de moi petite, et avec le décalage horaire, du coup, j'envoie un message à des gens qui me connaissent depuis toute petite, qui me confirment que c'était pas moi. Mais par contre, sur la lettre, c'était vraiment mon adresse quand, à l'époque, j'habitais dans le nord de la France. Donc, je veux rencontrer cette femme parce que je me dis, mais il y a combien sur la probabilité qu'une personne en Haïti ait une lettre avec mon adresse là où j'habitais dans le nord en France. Donc, je la rencontre et donc, du suite, alléluia, ma fille, super heureuse de me voir. Alors que moi, j'étais plus sur la réserve, j'étais pour le moment, je ne sais pas quitter. Donc, on va se calmer. Et du coup, on lui pose des questions et on lui demande donc de m'expliquer en fait comment j'ai été, pourquoi j'ai été adoptée. Et donc, du coup, elle raconte une histoire. Elle parle français, mais pour que l'histoire soit assez fluide, elle parle en créole. Mon guide me traduit, même si le créole, je comprends un petit peu. Et l'histoire qu'elle raconte, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans mon dossier, mais vraiment rien, quoi. Rien du tout. J'étais pas la cinquième, j'étais la deuxième. À l'époque où j'étais adoptée, elle avait que deux enfants. Et elle était, d'après ses dires, donc elle est tombée gravement malade. Et elle m'a laissée à des bonnes sœurs qui tenaient un orphelinat. Et si, au cas où il arrivait quelque chose comme ça, elle savait que j'étais entre des bonnes mains, entre les bonnes sœurs. Puisque comme j'ai dit, c'est un pays très croyant. Donc les gens de confiance pour eux, c'est vraiment les prêtres, les bonnes sœurs, les gens de la religion. Et donc, elle est tombée gravement malade. Elle m'a préféré me laisser mon frère à mon père, puisque bah, c'est un homme, ça ne s'occupe pas des filles dans la culture haïtienne. Et elle est retournée à la campagne, parce qu'en campagne, si on meurt le matin, l'après-midi, on est déjà enterré, c'est pieds sous terre, ils ne font pas de formalités, rien du tout, et ça ne coûte pas cher et c'est rapide. Alors que si une personne meurt en ville, il faut faire toutes les formalités, c'est cher, les gens n'ont pas le temps, n'ont pas d'argent, c'est plus compliqué. Et d'après ce qu'elle dit, elle se sentait penser qu'elle allait mourir. Et bon, finalement, elle a survécu puisqu'elle est là. Et quand elle est venue me rechercher, 6 mois après, ben, j'étais déjà partie, j'étais adoptée. Donc, du coup, sur le coup, j'étais à bon, ben, il y a soit quelqu'un qui me ment, parce que entre cette femme qui me raconte cette histoire et ce qui est marqué dans mon dossier, et que c'est quelque chose qui était vraiment ancré en moi, quoi. Donc, pour moi, ce qui était mon histoire, j'étais là, il y a quelqu'un qui me ment. Et donc, du coup, Dans mon dossier, c'est marqué qu'elle m'a donné, enfin, elle m'a confié à une personne justement pour m'amener à l'orphelinat. Et cette personne, dans mes recherches, je l'avais rencontrée. Et donc, du coup, j'avais son contact. J'étais, mais demain, en fait, confrontation, j'étais en mode FBI. Parce qu'en plus, elle habite une toute petite maison, vraiment pas très grande, avec une toute petite lumière. Je lui mettais la lumière, elle m'a dit la vérité. Ça faisait un peu FBI comme ça, mais elle ne demandait pas de sa version. Donc, le lendemain, donc, on arrange cette rencontre avec la soi-disant personne à qui elle m'a laissé. Et je lui fais répéter encore son histoire. Elle raconte la même chose, elle ne change pas de version. Genre, presque au mot près, la virgule près, elle ne change pas et tout. Et du coup, en confrontation, elle me dit, mais je ne connais pas cet homme. J'étais là, si, c'est marqué, tu m'as donné à cet homme. Elle fait, non, je ne le connais pas, jamais vu de ma vie. L'homme, pareil. Je ne connais pas cette femme, jamais vue de ma vie. Et au final, en fait, cet homme m'a expliqué que les bonnes sœurs de l'orphelinat avaient des avocats qui, justement, c'est eux qui s'occupaient de faire tout ce qui était papier, documents et tout ça. Donc, bon, dans les papiers, ils ont mis un petit peu des trucs pour faire que je sois adoptée un peu plus rapidement, parce que bon, dire que la mère est malade, le père est vagabond, ça fait pas très vendeur en Occident, alors que de dire que la mère est pauvre et le père est pas là, je suis plus adoptable. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, et au final on est aussi allé là où j'ai été baptisée. Et pareil, elle connaissait le nom du prêtre, ma date de baptême. J'ai redemandé les archives, on a regardé les archives, a fouillé les archives en Haïti qui sont déjà pas très bien organisées. Et tout est exact. Donc d'après tout ça, c'est ma mère.
Ok. Est-ce que vous avez conservé des liens après ça ?
Oui, on est toujours en contact. Au début, ma mère était très demandeuse de contact, m'appelait tout le temps, m'écrire tout le temps, tous les jours. Alors que moi, j'étais quand même plus sur la réserve, à faire quand même des briefings, à lui poser des questions en me disant, mais parce que du coup, sur le séjour, après, je suis restée chez elle. Elle m'avait invitée à dormir chez elle. Bon, au début, je ne voulais pas trop. Et puis après, j'étais, bon, je suis en train de payer un Airbnb bien trop cher, le seul en Haïti, je crois, où il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y avait pas d'eau courante, il y avait des cafards partout. En fait, j'étais, bon, je préfère aller dormir chez cette femme. Et du coup, on a passé des moments ensemble, effectivement. Et c'était très éprouvant émotionnellement, parce que du coup, moi, je ne savais pas trop comment le prendre. Ma mère, qui était tellement contente, du coup, elle m'appelait par mon prénom haïtien. Et moi, j'étais là, non, maintenant, je m'appelle Fanny. c'était très éprouvant émotionnellement. Et elle était beaucoup en demande, parce que forcément, elle avait perdu son enfant depuis 26 ans, 24 ans. Donc, elle était très en demande. Et moi, j'étais un peu plus sur la réserve. Et au fur et à mesure, en fait, on a réussi à trouver le rythme qui va bien pour chacun. Et on continue à être en contact.
Ok. Bon, ben, chouette, c'est une histoire qui finit bien.
Oui.
Avec une happy end. Est-ce que, du coup, j'ai beaucoup entendu des personnes adoptées dire qu'on leur dit beaucoup « tu as eu de la chance, dis merci », un peu cette espèce d'injonction que beaucoup entendent. Est-ce que toi-même, c'est quelque chose que tu as entendu Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression que les choses évoluent?
Effectivement, moi, je l'ai entendu. Premièrement, je l'ai entendu par mes parents. Ensuite, forcément, quand on parle des gens, quand on parle aux gens de l'adoption, c'est ce qui vient de suite aux gens. Ah, oh, ma pauvre. Parce que dans l'imaginaire des gens, on vient forcément d'un pays dit pauvre ou du tiers-monde ou pays du Sud, appelez-le comme vous voulez. Et du coup, aussi dans l'imaginaire des gens, c'est toujours une famille ou une mère seule. Dépourvue de tout, très pauvre, qui va faire le sacrifice de mettre son enfant à l'adoption pour sauver cet enfant, pour qu'il ait un meilleur avenir dans un pays dit riche, occidental ou pays du Nord. Et alors que dans ces mêmes pays, je veux dire par exemple en France ou aux États-Unis ou n'importe quel pays du Nord, il y a des personnes qui sont pauvres, voire peut-être aussi pauvres que les gens des pays sous-développés. Et c'est pas pour autant qu'elles vont laisser leurs enfants et les donner à l'adoption. Et oui, il y a toujours dans cet imaginaire le fait que si on est encore en vie, si on est en bonne santé, si on a eu une éducation, si on a eu un toit sous la tête, si on a eu à manger, ben, c'est justement grâce à l'adoption, parce qu'une personne a bien décidé de nous adopter et en gros de nous sauver la vie.
Mmh. On entend dans la bande-annonce... du coup, une des personnes adoptées qui témoigne dans le film, qui dit, on dit tout le temps qu'on a de la chance d'avoir une famille grâce à nos parents adoptifs, alors qu'on ne parle jamais du fait que grâce à nous, ils ont un enfant, quoi. Un truc un peu unilatéral comme ça.
C'est exact, exact, parce que... l'adoption, que même si on ne le voit pas d'un côté mercantile, c'est quand même un côté offre et demande. D'un côté, il y a des parents, des couples hétéro ou homoparental qui ont envie d'un enfant. Ça peut tout à fait se comprendre par rapport à leur projet personnel, qui, que ce soit à cause... à cause, par exemple, je sais pas, de stérilité ou d'autres soucis, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y en a qui choisissent de ne pas faire d'enfants et plutôt d'adopter. Mais en général, ce sont des personnes qui ont des problèmes de fécondité ou de conception, en tout cas. Et du coup, effectivement, donc c'est cette demande qui fait que dans les pays dits pauvres, il y a aussi cette absence d'aide sociale où les gens se retrouvent désœuvrés parce qu'effectivement, ils n'ont pas déjà l'éducation sexuelle qui va, ils n'ont pas accès, par exemple, à la pilule, à de la protection, à des préservatifs ou ce genre de choses. Et du coup... ils n'ont pas non plus d'aide sociale, comme on pourrait connaître ici les allocations. Donc, ils se retrouvent avec un, deux ou plusieurs enfants et sans pouvoir financièrement pour, apporter du soutien à ces enfants. Et pour eux, en plus, dans la culture, on va dire, en tout cas de ce que je connais de la culture noire africaine, l'enfance... Pour certains, ce n'est pas juste l'enfant juste des parents. C'est l'enfant du village, c'est l'enfant de la famille. L'enfant, il peut aller n'importe où, il va être élevé, il va être considéré comme l'enfant de tout le monde. Et du coup, dans ces pays-là, les gens vont laisser leurs enfants à quelqu'un dit de confiance, que ce soit sciemment ou parfois par la tromperie. Et parce que pour eux, ça ne leur pose pas le même problème que nous, on pourrait avoir ici en Europe, où chacun chez soi, chacun son enfant, on ne regarde pas l'éducation de ce qui se fait chez le voisin. Et, mais alors que dans les pays un peu comme ça, l'enfant, en fait, c'est l'enfant de tout le monde. Donc si on le laisse à la voisine, on le laisse à la tante, la grand-mère, ou on sait que notre enfant, il va bien, quoi. Et du coup, effectivement, c'est comme ça que les enfants se retrouvent dans des orphelinats et donc par la suite à l'adoption.
Oui, j'ai entendu parler par exemple d'un groupe de personnes adoptées du Mali qui font un procès, je crois, à l'association, à l'organisme d'adoption. Et parce que, du coup, comme tu dis, ça se fait assez couramment de confier son enfant dans des moments de difficulté à d'autres personnes. Mais là, du coup, ces organismes en ont profité, vu que donc il y a deux statuts adoptifs en France. Il y a l'adoption plénière qui coupe les liens familiaux avec la famille biologique. Et exact. L'autre qui est l'adoption
simple. Enfin,
l'adoption simple, voilà, où ça ne coupe pas les liens avec la famille biologique. Et du coup, il y avait donc cet organisme qui faisait signer, qui faisait donc cette procédure d'adoption simple pour laquelle étaient d'accord les parents, mais du coup, qui faisait signer à des personnes qui comprenaient pas forcément ce qu'il y avait sur le papier. Des papiers d'adoption plénière, ce qui n'est pas légal puisque du coup, apparemment, dans les lois internationales de l'adoption, on est censé respecter les lois du pays d'où est issu l'enfant adopté.
C'est ça, au Mali. Il n'y a pas l'adoption plébien, ça n'existe pas. C'est plutôt un système qui s'appelle adoption-protection, où effectivement, une famille peut prendre soin d'un enfant du Mali, mais normalement ne peut pas finaliser l'adoption pour que ça devienne entièrement son enfant. Et c'est plus un système de protection comme une famille d'accueil. Après, actuellement, ben, comme l'affaire est en cours, je ne peux pas trop dire de choses sur les adoptés du Mali. Donc, ils font leur parcours judiciaire et franchement, je les encourage beaucoup là-dedans. Et après, effectivement, concernant d'autres pays, il y a beaucoup de juges, parce qu'une fois que l'enfant est arrivé en France, a été adopté, les parents ont un an pour justement confirmer qu'ils veulent adopter cet enfant et justement que ça devienne une adoption plénière, surtout si c'est une adoption internationale. La plupart du temps, l'adoption internationale devient plénière. Et, mais il y a beaucoup de juges, par méconnaissance des lois internationales, ne savent pas et prononcent l'adoption plénière. Et d'autres invoqueront plutôt l'intérêt supérieur de l'enfant en disant qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que l'enfant continue à avoir un contact avec son pays d'origine, puisque de toute façon, maintenant, il est en France. Et du coup, avec cet intérêt supérieur, pour dire que, comme normalement de base, l'adoption, c'est un système de protection, le mieux pour l'enfant, pour qu'il puisse grandir, faire sa personnalité, s'épanouir, c'est de ne plus avoir de contact avec la famille d'origine. Donc, il prononce l'adoption plénière en parfois connaissant les lois du pays.
Ah oui, d'accord. Du coup, c'est un peu abusif, quoi. Et ouais, tu m'avais parlé donc de l'EFA. Tu peux me rappeler ce que
ça
veut dire?
Alors, EFA, ça veut dire enfant et famille d'adoption. Donc, c'est une fédération. Dans presque chaque département, il y a une EFA. Par exemple, ici, il y a EFA 31. C'est du coup une association qui s'adresse aux personnes donc, qui ont soit un projet d'adoption ou qui ont déjà adopté. Donc, c'est plutôt pour du coup les parents. Et du coup, ils font des ateliers pour les accompagner dans leur processus d'adoption et post-adoption.
Oui, tu disais qu'avant, ils considéraient vraiment les enfants adoptés comme n'ayant eu pas de vie avant leur arrivée en France et que maintenant, ça tend à évoluer.
Voilà. Maintenant, en fait, EFA, justement, dans le parcours, le processus d'aide aux parents, les parents, donc, du coup, ont des ateliers qui expliquent qu'il faut bien prendre en compte l'histoire de l'enfant, que si l'enfant réagit d'une telle manière, c'est peut-être dû à son passé, suivant les situations, alors que pendant très longtemps, dans le passé, on disait, bah, une fois que l'enfant est arrivé en France, oubliez tout, oubliez le passé, il sera plus heureux en France et sa vie commence à partir du moment où il est sur le territoire français. Alors que maintenant, avec les recherches et les études des professionnels, les psychologues, les pédopsychiatres et tout ça, on sait très bien qu'un enfant a des souvenirs, même subconscients, depuis in utero. Donc, il y a des choses qui se passent. L'enfant a eu un lien avec une personne qui l'a porté, a eu un lien avec la nourrice de l'orphelinat, a eu un lien avec une famille d'accueil avant d'avoir un autre lien avec les parents qui vont l'adopter. Et ça construit la personnalité de l'enfant et qu'il faut prendre en compte.
Ok, merci. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de l'adoption internationale? Parce que c'est... Voilà. De quand ça a commencé, quand ça a explosé, quand ça a diminué, etc.
Alors, pour la France, l'adoption s'est vraiment démocratisée après la Seconde Guerre, pour justement faire adopter tous ces enfants français orphelins, des guerriers, enfin, des soldats. Après, suivant les pays, ça peut commencer un peu avant. Par exemple, en Belgique, c'est plus, ça commence déjà dès après le post-colonial, par exemple. Il y a eu vraiment effectivement un avènement, on va dire post-colonial, où par exemple en Belgique, on adoptait les enfants métis pour, parce qu'on considérait que même s'ils étaient moitié blanc, moitié noir, le mieux c'est que quand même ils viennent du côté blanc plutôt que de rester dans les pays africains où, comme à l'époque coloniale, ils n'étaient pas considérés comme des êtres civilisés. Donc le mieux, c'est que bon, ben, si une personne blanche a un enfant avec une personne noire, le mieux, c'est de le civiliser avant que son côté noir refasse surface. Ensuite, effectivement, en France, on a quand même un parcours lié aussi avec le colonialisme, puisque les pays donneurs d'enfants sont quand même des pays qui ont été colonialisés. Et ensuite, effectivement, il y a eu plusieurs tendances, donc cette tendance postcoloniale, et encore par la suite, il y a eu une tendance dite humanitaire, quand il y a eu plusieurs crises, par exemple la famine et tout ça. Par exemple, tout le monde se souvient de cette pub Action contre la faim, où un pauvre enfant avec juste la peau sur les os, et là les gens se sont dit « Oh mon Dieu, on ne peut pas laisser un enfant comme ça ». Le mieux, c'est qu'ils viennent en France pour qu'ils soient nourris. Et du coup, il y a eu voilà, tout un avènement humanitaire. Et c'est aussi de là d'où vient le « dis merci », parce que du coup, on t'a sauvé de la famine. Et ensuite, pendant l'avènement, c'est vraiment les années 80-90. À l'époque, il y avait presque plus de 500 enfants qui arrivaient en France par an. Et depuis maintenant une dizaine d'années, les chiffres sont en chute libre. Et maintenant, il n'y a plus qu'une vingtaine d'enfants qui arrivent en France chaque année. C'est dû surtout entre 90 et 2000, il y a ce qu'on appelle la Convention de La Haye. Donc c'est une convention que les pays qui donnent des enfants et ceux qui reçoivent ont signé pour justement éviter toutes les malversations qu'il y a pu avoir pour ces enfants et qui justement met au cœur de l'adoption l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc du coup, les pays qui ratifient cette convention doivent respecter certains critères pour être sûr que l'enfant il soit vraiment adoptable. Du coup, ça fait vraiment chuter les chiffres. Et il y a aussi un événement que les pays qui donnaient les enfants maintenant sont vraiment décideurs de quel type d'enfant ils donnent, combien ils donnent et à qui ils donnent. Il y a beaucoup, enfin, il y a certes pas beaucoup, mais certains pays, comme par exemple l'Éthiopie, qui a fermé ses portes à l'adoption complètement. On ne peut plus adopter d'enfants en Éthiopie, par exemple. Il y a d'autres pays africains, mais là, de suite, je ne saurais pas vous dire lesquels, donc je ne vais pas me tromper et pas induire en erreur, qui aussi a arrêté de donner des enfants à l'adoption. Et après, il y a d'autres pays, comme par exemple la Russie, qui impose ses critères, qui, par exemple, ne souhaite pas donner... Que les enfants qui sont à l'adoption, ce sont des enfants qui sont dits à particularité, donc c'est-à-dire soit un enfant qui a un handicap léger ou lourd, physique ou psychique, soit un enfant de plus de 6 ans, ou soit une fratrie. Et les enfants, entre guillemets, dits normaux, sont plutôt prioritaires à l'adoption nationale. Donc les Russes qui veulent adopter ont des enfants en bonne santé, alors que les adoptants des pays étrangers auront le reste des enfants. Et il y a beaucoup de pays qui suivent ce mouvement de la Russie. Et aussi, l'adoption, il y a aussi un côté diplomatique. Parce que, toujours en prenant l'exemple de la Russie demande un suivi des enfants jusqu'aux 18 ans. Donc les parents adoptifs ou les associations qui, donc les OA, les associations qui pratiquent l'adoption en tant qu'intermédiaire pour la Russie, doivent envoyer donc à l'ambassade qui a son service d'adoption le suivi de l'enfant adopté pour dire il est encore vivant, tout va bien. Et beaucoup de parents ne le font pas, ou beaucoup d'associations ne le font pas, et ça provoque certaines tensions diplomatiques, et l'adoption est aussi un système de négociation diplomatique entre pays, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est pour ça aussi que les chiffres actuellement sont en chute libre, parce que beaucoup d'adoptants souhaiteraient un bébé entre 0 et 3 ans en bonne santé, et ça vient se confronter à la réalité des choses aujourd'hui. C'est qu'on va plutôt leur proposer un enfant de 7 ans avec peut-être une malformation physique ou un problème de santé. Et du coup, déjà, le souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, il y a aussi peut-être des choses à revoir ou à réévaluer. Et c'est ce que fait justement actuellement le gouvernement avec une réforme de l'adoption pour essayer que les enfants qui sont dans les foyers, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent, il y a tellement d'enfants dans les foyers français, pourquoi on n'irait pas les adopter? Mais ces enfants-là ne sont pas adoptables. Et le gouvernement a fait un projet de loi pour justement essayer que ces enfants qui restent à vie dans les foyers puissent être adoptés.
Ok. Tu m'as parlé aussi d'un quelque chose qui a été nouvellement mis en place. Donc tu disais qu'avant, les enfants rencontraient leurs parents adoptants à l'aéroport et que maintenant, il y a un temps de résidence qui est demandé aux parents pour rencontrer une première fois l'enfant et puis rester sur place. Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui. Moi, par exemple, mes parents, donc ils m'ont adoptée en 91, donc en fait, on leur a dit, vous avez un enfant, on leur a juste envoyé une photo de moi, on t'a dit, tiens, c'est votre fille, et rendez-vous à Roissy quand elle arrivera à tel terminal. Et c'est comme ça qu'ils m'ont rencontrée pour la première fois. Alors que maintenant, beaucoup de pays, comme j'ai expliqué, donc imposent leurs règles sur comment, sur le processus d'adoption. Donc beaucoup de pays demandent des temps de résidence. Ça peut aller de quelques semaines à avoir 6 mois de résidence dans un pays pour justement que les parents comprennent la culture du pays, comment vivent les gens, apprennent la langue, puissent rentrer en contact avec l'enfant et que l'enfant puisse avoir justement ce temps d'adaptation avec ces personnes qui sont étrangères pour lui de base et voir si justement ça match, on va dire, entre personnalités. Et ensuite, donc suivant les pays, soit c'est un voyage, parfois c'est 1, 2, voire 3 voyages pour avant partir définitivement avec l'enfant.
Ok. Du coup, là, ce que tu disais, c'est l'enfant a eu une vie in utero, il a été porté, il a peut-être connu sa mère de naissance, il a pu avoir être passé par une famille d'accueil, un orphelinat et avoir noué des liens. Puis avant tout ça, avant de rencontrer sa famille adoptante. Et du coup, tout ça, ça fait aussi une capacité à renouer des liens. Et tu m'as parlé de la résilience des personnes adoptées. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Oui, alors le thème résilience, c'est souvent on parle de résilience quand d'une expérience mauvaise ou traumatique, on en fait une force et c'est ça qui nous fait avancer et justement on a la capacité d'avancer malgré ce qu'on a vécu. Donc effectivement les personnes adoptées sont dites résilientes parce que déjà elles ont vécu soit un ou soit plusieurs abandons, mais l'abandon ça peut être juste l'abandon de la mère biologique, mais ça peut être aussi la rupture du lien avec la nourrice ou la famille d'accueil si l'enfant passe par plusieurs orphelinats ou plusieurs familles d'accueil. Donc pour des enfants, des ruptures de lien avec des personnes avec qui elles étaient attachées, ça peut être quelque chose de très difficile. Et justement aussi, on dit que les adoptés sont des personnes résilientes parce que suivant les conditions et le pays dans lequel on est né, on a survécu peut-être à la famine, on a survécu aux maladies, on a survécu à plein de choses avant même d'être adopté. Et même si pour nous ça paraît rien du tout, mais effectivement... on connaît dans certains pays le taux de mortalité infantile et on est passé outre. Donc déjà, il y avait une force de vouloir vivre, une force de se battre, même en étant bébé, donc sans forcément savoir ce que c'était de se battre quoi, pour sa survie. Et une force de pouvoir avancer dans la vie et de prendre malgré tout ce qui peut arriver à une personne adoptée, d'en faire une force et de pouvoir avancer. Donc c'est vraiment ça, la résilience.
Merci Fanny. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on écoute une petite musique ?
Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invitée. Et non, si vraiment il y a des personnes qui sont intéressées par l'adoption vue par des professionnels, je recommande le livre de Joanne Lemieux, qui est une pédopsychiatre canadienne, mais reconnue internationalement, et qui s'est spécialisée dans l'adoption, parce qu'il y a très peu de professionnels, même en France, spécialisés dans l'adoption. Et je recommande aussi les livres de Boris Cyrulnik, qui a présidé, par exemple, le rapport sur les 1000 premiers jours des enfants, et qui est un neuropsychiatre qui s'intéresse à la résilience et à l'attachement des enfants dans un système familial. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez faire vos recherches sur ces personnes.
Ok, merci. On donnera plus de ressources dans la suite de l'émission. On se retrouve après une petite page musicale.
Haïti, à l'âme content, ouais, oh. Port-au-Prince, où j'aime t'en vie, ouais, oh. Haïti, à l'âme content, ouais, oh. Haïtien, mes frères, où j'aime t'en envie, ouais. Depuis aéroport, moi senti me transformer. Radio, télévision, journaliste, toutes les villes rencontrées. Nous sortis de tous côtés pour y'a vine accueillir nous. Moi t'es tellement saisi que pas même qu'à parler, enchanté.
À la content, content, à souhait à ton pays.
Mes amis,
à la content, content, à souhait à ma médecine.
Bloqué sous toute route Montana. 11h du soir sonné, n'a dirigé à Riz. Nous boivons pas beaucoup, nous mangeons bon criot. Oh, mercredi 1er mars, son jour pape s'habiller, enchanté.
À la content, content, à souhait à nos pays.
Mes amis,
à la content, content. Assouer à ma belle famille,
oui c'est vrai. À la content, content, assouer à ma belle famille. À la content, content, assouer à mon pays.
À la content, content,
Bonsoir, vous êtes toujours dans La Vie des Nôtres sur Canal Sud 92.2 et ce soir on parle adoption internationale et transraciale avec notre invitée Fanny. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, alors on vient d'écouter un morceau de Tabou Kambo et le titre ça s'appelle « Lakai ». Et « Lakai », donc c'est un mot créole qui veut dire « la maison ».
Ok, okay, merci. En créole haïtien. Alors.
Créole haïtien, oui.
Super, okay. Bah, merci en tout cas. Du coup, là, pour cette deuxième partie d'émission, on voulait un peu parler du film d'Amandine Gay et du livre qui sont sortis récemment et qui, en tout cas, moi, j'ai l'impression, aborde... c'est la première fois qu'il y a des un film et un livre qui est diffusé à grande échelle en français par une personne adoptée qui parle de son point de vue. Et donc c'est vrai que vraiment on trouvait ça vraiment intéressant d'en parler dans cette émission. Roxane, tu voulais un peu parler de choses qui t'ont marqué dans le film?
Là c'était juste pour rebondir sur le livre, mais comme on a un peu parlé du film déjà, parce que donc ce que tu m'as dit, c'est toi qui l'as lu, mais moi je l'ai entendu aussi en parler de ce livre, et elle disait que c'était un livre essentiellement autobiographique, mais qu'elle utilise aussi la narration de son histoire pour parler un peu plus de théorie politique et amener vers des concepts un peu plus ardu ou consistant, quoi. Et elle disait un peu « Mon récit, c'est le miel pour attirer. » Et est-ce que ça a marché?
Ah ouais, bah alors, sur moi, ça marche très bien. Hein. Donc, c'est vrai qu'un mélange de biographie et d'analyse politique, c'est vraiment le truc qui marche très, très bien avec moi. Moi, je trouve qu'il est vraiment, vraiment chouette à lire. Alors, je l'ai pas fini. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même avoir un peu quelques bases théoriques, quelques notions sur des questions de féminisme, d'antiracisme, de questions, rapport nord-sud, d'afroféminisme. Je pense que quand même, c'est bien d'avoir quelques notions pour aborder ce livre. Mais sinon, c'est vrai qu'elle mêle vraiment son histoire à elle et puis l'histoire, en fait, d'autres personnes adoptées qu'elle a pu rencontrer. Et puis, des analyses plus globales, en fait, justement, où il y a un regard vraiment, vraiment global et qui fait voir, qui retourne vraiment tous les imaginaires qui sont ancrés, comme on parlait tout à l'heure de la gratitude qui est demandée aux enfants adoptés, c'est là comme si c'était eux qui avaient de la chance d'être adoptés, de toujours en parlant toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que elle dit mais s'il y a vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant, est-ce qu'on va voir à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, comment vont les personnes, en fait? Est-ce qu'on va leur demander aujourd'hui en France comment elles vont? Est-ce qu'on s'intéresse à la santé mentale des personnes adoptées en France? Est-ce qu'on, tout ça sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et pourquoi par exemple, si c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, au lieu de qu'il y ait des migrations forcées comme ça d'enfants en bas âge, pourquoi on fait pas tout pour que les enfants restent dans la communauté d'origine, dans le pays d'origine, etc. Ou pourquoi, en fait, pour des adoptions transraciales, donc des enfants qui ne sont pas de la même race, avec des guillemets, que leurs parents, pourquoi, en fait, il n'y a pas aussi un apprentissage des parents, que c'est toujours les enfants qui doivent faire de la pédagogie à leurs parents, pourquoi et que il y a un truc qui m'a marqué, parce que moi c'est vraiment un sujet que je connais pas. Elle disait que par exemple au Québec, pour adopter, pour une adoption transraciale, il faut que les parents adoptants aient au moins deux personnes de la même origine dans leur entourage que l'enfant, pour pouvoir adopter un enfant, pour qu'en fait il y ait d'autres adultes de référence, que l'enfant puisse avoir aussi des modèles d'adultes qui lui ressemblent, que les adultes puissent aussi dire l'enfant va vivre telle et telle chose comme racisme. Il y a aussi, par exemple, sur des trucs de soins de cheveux, de peau, etc., des choses qui sont importantes. Et donc elle parle de tout ça, et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et puis elle élargit sur le faire famille, comment on fait famille aujourd'hui, et donc elle parle aussi de ce qu'on a appelé la justice reproductive. Je sais pas si tu veux un petit peu en parler.
Oui, tout à fait. Alors, je suis contente parce que l'autre jour, mon colloque m'a demandé ce que c'était la justice reproductive. J'ai su lui répondre, donc ce soir, je pense que j'ai réussi à répondre. Du coup, c'est le fait de dire que les questions donc, d'adoption, de placement d'enfants, d'adoption internationale, mais aussi de les enfants qui sont nés sous X... que toutes ces questions-là sont traversées par des questions de classe, de race, de rapport Nord-Sud. C'est des questions éminemment politiques. Et voilà. Et du coup, de dire que ce n'est pas un hasard si c'est des enfants du Sud qui sont adoptés dans des pays du Nord. Ce n'est pas parce que les Éthiopiens n'ont pas envie d'adopter des petits Norvégiens. C'est parce que, du coup, ça s'inscrit dans un continuum historique aussi de déplacement d'enfants. Fanny nous en a parlé tout à l'heure, que ce soit pendant la colonisation, pendant les guerres impérialistes américaines, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu donc, cette culture colonialiste et impérialiste de déplacement d'enfants en prétendant qui servait parfois aussi la propagande guerrière des États, de dire il faut sauver des enfants et de déplacer des enfants de la même manière comme on voit la problématique aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui sont orphelins ou qui ne le sont pas forcément, qui ont des familles éventuellement. Donc voilà, elle montre comment tout ça s'inscrit dans un continuum. Elle parle aussi du coup des enfants des DOM, des enfants de la Creuse. Mm-hmm. Tu veux nous en parler un peu ?
Alors, les enfants de la Creuse, c'était vraiment une volonté politique faite par un ministre de l'époque, Monsieur Debré, si je ne me trompe pas. Le but, c'était de repeupler les départements qui étaient vraiment avec une démographie faible. Donc, par exemple, la Creuse. Et donc, le but a été de prendre des enfants des DOM-TOM, principalement la Réunion, des enfants qui n'étaient pas du tout orphelins. On a vraiment, d'une certaine manière, enlevé ces enfants aux parents réunionnais en disant que leur enfant allait avoir une éducation en métropole. Et au final, les enfants se retrouvaient donc dans un département très peu peuplé, étaient considérés par les gens qui ont accueilli ces enfants plutôt comme des ouvriers agricoles. Il y a eu de la maltraitance physique, sexuelle, mentale sur ces enfants. Et là, c'était vraiment quelque chose où, on va dire, des bien-pensants, donc des ministres, ont réfléchi, ont pensé et se sont dit que c'était une bonne idée et ont mis à exécution cette idée qui, juste en faisant le résumé, c'est juste ignoble de mon point de vue. On ne peut pas se dire, oh, tiens, quelle bonne idée, on va arracher des enfants quelque part pour les mettre ailleurs. Et du coup, ces personnes ont créé une fédération. Et se sont donc réunis, ont fait un procès, ils sont partis en justice. Ce qu'ils ont obtenu, parce que normalement l'État est inattaquable, n'est pas justiciable, mais ils ont reconnu, l'État a reconnu leur statut de victime. Ils ont obtenu une statue à la sortie de l'aéroport de Orly, si je ne me trompe pas, Roissy ou Orly. Et leur but maintenant, c'est vraiment d'aider les personnes, donc les enfants de la Creuse, à retrouver leur origine et de continuer quand même le combat sur cette injustice qui leur a été faite.
Et oui, merci du coup de repréciser cette histoire-là. Du coup, donc certaines personnes emploient le terme de déportation d'enfants, hein, parce que... On peut que constater qu'il s'agit de ça. Et au même moment se passait donc aussi l'histoire des stérilisations forcées dans les mêmes territoires. Du coup, c'est aussi ça les questions de justice reproductive, c'est-à-dire au même moment que les féministes blanches en France dans les années 70 luttaient pour avoir accès à la contraception et à l'avortement, du coup, dans les DOM, les personnes subissaient des stérilisations forcées et c'était contre ça qu'elles devaient lutter. Du coup, les enjeux sont pas les mêmes selon où on se place. Et du coup, effectivement, vu que dans les pays du Nord, il y a il y a l'accès à la contraception et à l'avortement qui s'est développé, il y a une baisse de la fertilité de manière générale. Du coup, l'offre, parce qu'il s'agit donc effectivement vraiment comme d'échanges économiques, quoi. La demande a beaucoup demandé et fait pression donc, sur les pays du Sud. Ça favorise tous les abus du monde sur l'adoption d'enfants qui ont des parents, voilà. Par exemple.
Je pense que voilà, alors l'heure tourne, l'heure avance. Peut-être qu'on peut voilà, on peut conclure aussi là. Moi, j'ai l'impression qu'aussi pour finir sur la justice reproductive, ça prend aussi en compte toutes les questions d'accès à la PMA, les questions de GPA, même si c'est des questions complexes. En tout cas, l'accès à la reproduction pour des couples homoparentales.
Le premier, ouais,
vous avez compris. et voilà, et qu'en plus la question même en France aujourd'hui pour beaucoup de femmes migrantes, il y a encore ce truc de contraception forcée. Enfin voilà, moi je suis toujours surpris et je travaille dans une association où on accueille des femmes migrantes et parfois il y en a qui disent je vais à l'hôpital pour un avortement, je me réveille avec un truc dans le bras, je sais pas ce que c'est en fait, et on leur a mis un implant contraceptif et c'est aujourd'hui ici à Toulouse. Donc c'est vraiment encore des pratiques hyper courante, ou en fait encore une collègue qui va avec une des femmes qui veut se faire enlever son implant contraceptif, qui va à l'hôpital, qui l'accompagne, et la médecin fait comme si elle n'entend pas. Et là, c'était il y a 2-3 semaines. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui et voilà, dont on est peu au courant, mais voilà, ça rentre vraiment dans ce continuum colonial et qui est toujours là sur ces questions de reproduction, de qui a accès à quoi et à qui on ne veut pas qu'elle fasse des enfants et qui, voilà, etc. On va écouter peut-être un morceau avant de passer aux chroniques.
Rouge et bleu. Rouge et bleu, rouge et bleu, rouge et bleu, rouge et bleu. Yeah. Tout côté non passé, y a petit rouge et bleu. Que ça qui panique, y a péré les pompiers. Mais pas de pompiers qui ca éteint du feu ça. Non tempête, éclair, l'orage. Si moun yo n'ont pas besoin faire sauvage. Les qui te volent tennis pour maman yo c'est dommage. On l'en est volé le pied, lui tire la grosse. Oui. Yo vendredi après-midi, là yon TV long avion passé l'ilage, yon malette blanc. Maman passe c'est farine, la lakay pour faire la bruit. Si moun yo mange yo mourir. Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Que de l'air moins crié pour rouge bleu. Y'a ça qui prend bateau à marquer rouge bleu. Yo rive Miami, yo voye yo tourne. Rouge bleu, rouge bleu. Rouge et bleu, rouge et bleu. Pour qui ça y'a pas boyé qui me tourne. C'est pas ce nom même non, c'est petit tout ça. Jean-Jacques Dessalines Boukman. Oui, gardez l'île le grand matin. Pour qui ça, pour l'alcool du taxi. Qui côté, dans New York City. Pour lui paye un petit l'argent, pour le voyer par mon Jérémy. Pendant la conduite, il est en destin. Nel vire li wè se yon hold up. Nèg yo tire zam, chans pou li. Glas lan te bullet proof, mi se rele. Merci Jésus. Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Zanj ki te poteje lan te habye en rouge bleu. S'il vous plaît, ti moun suspend tire. Pour rouge bleu, trop sans couler. Haïti, Paris, Montréal. New York City, tout le monde entier, si nous représentons, levez drapeau, nous chanter. Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Tout côté de nos passés, y'a petit rouge bleu. Depuis moi, paraître, y'a petit sac passé.
Yo di oui clef nou konen rouge rouge bleu. Mayo football mwen se rouge bleu. Telefon mwen rouge bleu. Mem lem domi dra mwen kouvri avèk lan rouge bleu. Sinon wè mouri nou pa bezwen kriye pou rouge bleu. Gade siel la, li pa bleu, li rouge bleu. Yeah! Yele, 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 le profet yo pale. Fok nou koute tande. Yeah! Yele. Bon mou pou mwen pase. Mwen wè te mwen mes lan devan mwen. Fok mwen hale. Yeah! Yele, yele, yele. La pli tombe non pa mouye. Grand adieu. Yele. Yele, yele, yele. Apre de 100 ans, benediksyon rive.
Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Seleksyon nasyonal la pa bliye non rouge bleu. Depi mwen paret pou Clean Bridge lan bloke. Pase New York City nou se rouge bleu. Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Respect a Montréal nou konen nou se rouge bleu. Ozanti, moun Boston nou konen nou se rouge bleu. Moun Washington nou konen nou se rouge bleu. Haiti,
nou jese, mwen pa jambliye non. Rouge bleu, Haitien yo nan Paris. Nan Afrique, Haïtien yo nan batè ka pou pekan, rouge bleu.
Pa jambliye kote ou soti.
Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est Wyclef Jean, donc, qui parlait en créole, et la chanson, c'est Rouge et Bleu, qui est la couleur du drapeau haïtien, et c'est une chanson qui, la plupart du temps, est jouée à la fin du carnaval, où tout le monde danse avec le drapeau à la main.
Merci, Fanny.
Broup ! C'est le jingle.
Jingle chronique.
Cinéma. On n'est pas encore au point, on n'a pas encore créé le Toudoum de Netflix, mais il arrive bientôt, il est dans les bacs. Et en plus, j'ai écrit ma chronique à 1 minute moins 60 du début de l'émission, du coup ça va être super, je vais essayer d'aller vite. Le cinéma, on en a déjà un peu parlé, on a même consacré toute une émission sur le sujet, mais à la vie des nôtres, comme on aime bien regarder des films, on a eu envie de proposer une chronique un peu régulière pour faire part des choses qui nous ont marqué sur grand ou petit écran. Et c'est ainsi que vous retrouverez June et Roxane pour une chronique Netflix sur la prochaine émission, je crois.
Tout à fait, car nous n'avons pas le temps ce soir.
Alors voilà, là moi aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'un film qui m'a marqué et que j'ai trouvé très beau ces derniers temps et que j'invite fortement à voir, et d'un événement, j'en dis plus tout à l'heure. Le film, il s'agit de Résidu de Merawi Jerima, qui est un réalisateur afro-américain qui vient de faire une espèce de pépite incroyable qui est sortie dans quelques scènes de le ciné à peine. Il faut un peu arriver à le suivre pour le voir. Je vous lis le synopsis. C'est Jay, la trentaine, retourne dans son vieux quartier de Washington DC et y découvre à quel point celui-ci est gentrifié. Les résidents afro-américains se trouvent poussés hors de chez eux par des propriétaires plus riches et majoritairement blancs, traités comme un étranger par ses anciens copains. Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient. Voilà, c'est un peu pour vous donner la température du film qui questionne un peu ce truc qu'on peut ressentir, que j'ai pu ressentir et que plein, je pense, peuvent ressentir de qu'est-ce qu'on fait quand on appartient à deux mondes, qu'est-ce qu'on fait quand on est parti de chez soi, comment on revient chez soi, comment on parle de chez soi quand on n'y est plus et comment on fait sans cesse ces mouvements intérieurs et extérieurs. Et je trouve que le film vraiment le porte très très bien à l'écran et je vous invite très très fortement à le voir. Le deuxième point, c'est un événement auquel j'ai eu la chance d'être invitée dimanche prochain, 13 février, pour présenter un de mes films. C'est un événement porté par Alice Diop, une réalisatrice documentariste qui a fait plusieurs films, et notamment un film qui s'appelle « Nous », où elle trace un peu le quotidien du RERD, si je me souviens bien. Et du coup, cet événement s'appelle « Autour de nous », c'est du 11 au 14 février au Centre Pompidou. Je vous lis la note d'Alice Diop à ce sujet. Depuis un an, invité par le Centre Pompidou et les ateliers Médicis, une dizaine de programmateurs et moi-même réfléchissons à l'édification d'une cinémathèque idéale des banlieues du monde. Vaste entreprise qui, au fil de ces longs mois de travail, nous est apparue tel un projet ambitieux, poétique, utopique et politique. Ambitieux parce que cette tâche est colossale, en ce qu'elle nous invite à cerner ce qui ne l'est pas, la banlieue et ce que serait le cinéma en banlieue. Poétique parce que collectionner ces films, faire apparaître ces gestes de cinéma dessine sans cesse notre regard sur ces lieux. Utopique parce que l'entreprise répare un vide, elle comble les manques, les trous et exhume la mémoire enfouie et effacée de ces territoires, des gens qui y vivent et de ceux qui y ont vécu. Ce projet rattache leur histoire, notre histoire, à la grande et longue histoire du cinéma. À partir de ces plus de 300 films déjà identifiés, le Centre Pompidou me propose d'en programmer 11 films qui seraient à la fois un autoportrait et ne le seraient pas. Ce n'est pas un best-of, c'est une proposition, non mue par le souci d'exhaustivité, une constellation, une tentative de trouver la meilleure réponse aux mauvaises questions. Qu'est-ce que le cinéma dit de banlieue ? Qui seraient les cinéastes de banlieue ? La banlieue film, comme je l'ai déjà entendu, est-ce que c'est un genre ? Est-ce que c'est un sous-genre ? Programmer ces quelques films, c'est faire apparaître autant de gestes de cinéastes, autant de voix, de regards singuliers, de genres et d'écriture. C'est une manière pour moi de rendre grâce à ces films qui réparent, qui réchauffent, qui aident à penser, à formuler ou à reformuler. C'est l'occasion de battre le rappel, d'exposer nos alliances et peut-être surtout d'honorer tant la complexité de ce lieu que de célébrer des cinéastes qui échappent aux assignations réductrices. Voilà, c'était le mot d'Alice Diop sur cet événement. Du coup, là, c'est mon instant autopromo. Mon film sera projeté le dimanche 13 février à 14h là-bas. Mais il sera surtout accompagné par 3 films que j'invite fortement à voir. Le premier, celui d'Alice Diop, qui s'appelle Vers la tendresse. Le deuxième, c'est un film de José H. Enjambé, qui a également réalisé le court-métrage Baltringue il n'y a pas longtemps. Et ce film-là s'appelle Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Et le troisième, enfin, c'est un film de Fatima Kassi qui s'appelle Terre d'ombre. Voilà, à vous les studios.
Super, merci, ça donne envie tout ça. Et du coup, Fanny, tu veux nous faire ta propre chronique cinéma sur les films qui parlent d'adoption, qui t'ont marqué, qui t'ont plu ?
Oui, alors déjà, un premier film, c'est, je pense que presque tout le monde l'a vu, ou en tout cas connaît le nom, c'est « Il a déjà tes yeux », qui montre justement un couple de personnes africaines noires qui adoptent un enfant blanc avec justement toutes les réactions et les stéréotypes qu'il peut avoir sur une adoption transraciale, mais à l'inverse, puisqu'on a plus l'habitude de voir des personnes blanches adopter un enfant noir sans que ça pose de questions ou d'étonnement, alors que l'inverse est clairement plus rare. Un deuxième film qui est disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Blue Bayou. Et c'est un film qui trace en fait l'histoire d'un personnage, mais qui en fait représente l'histoire de plusieurs personnes réelles. Ça se passe aux États-Unis, et aux États-Unis, ce sont des adoptés dont les parents n'ont jamais fait la procédure administrative pour leur donner la nationalité américaine, et qui, du jour au lendemain, suite à des événements, se retrouvent déportés et qui sont obligés d'aller vivre dans leur pays d'origine auquel ils n'ont aucune connaissance, que ce soit du pays ou des personnes sur place. Et un troisième film qui est passé sur Netflix, c'est un film documentaire. Alors, ça s'appelle « Three Identical Strangers ». Je ne connais pas le nom en français parce que moi, j'ai regardé en VO. Et ça raconte l'histoire de trois triplés qui se sont rencontrés, qui ont été adoptés chacun dans différentes familles, dans des familles différentes, donc un dans chaque famille. Et qui se sont rendus compte que l'agence d'adoption, ça se passe aussi aux États-Unis, que l'agence d'adoption avait signé un partenariat avec un chercheur d'une grande école américaine pour voir en fait comment des enfants issus de la même origine pourraient s'adapter à leurs différentes conditions, puisque chacun des triplés a été mis soit dans une famille dite modeste, soit dans une famille dite très riche, ou soit une famille de la classe moyenne, et de savoir si l'évolution était plutôt faite à cause du milieu dans lequel on vit, ou si on a déjà une espèce de destinée par rapport à là où on est né ou comment on est né.
C'est un documentaire ou c'est une fiction ?
C'est un documentaire. D'accord. Un documentaire.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Le mot de la fin ?
C'est le moment où je tousse, c'est le moment où on peut passer à l'agenda, je pense.
Agenda.
Agenda.
Alors, prochainement, dans le cadre de la campagne anti-racisme et solidarité, samedi 12 février de 14h à 17h à l'Université du Mirail, il y aura des tables rondes sur les frontières et les racismes, des échanges entre universitaires et organisations impliquées localement, témoignages de lutte sociale. Ah, il y a... Ah, pardon. Témoignages de lutte sociale. À 19h à la Chapelle, 36 rue Daniel Casanova, et il y aura des concerts dans le même cadre avec Slimane, musique traditionnelle kabyle, Léon BT1, Zeta et Maï de Rimas qui fait du rap. Dimanche 13 février, il y aura, toujours pour la campagne antiraciste solidarité, un tournoi de foot avec banquet populaire et divers ateliers de 10h à 16h au 65 rue Saint-Roch. Enfin, le samedi 19 mars, dans cette campagne, il y aura une manifestation. Il y aura plus de détails bientôt. Mercredi 16 février, il y aura un concert de soutien à la 8e édition de Ciné Palestine Occitanie à 20h au Parc des Sports du Bazacle, 1 impasse du Ramier des Catalans. Ciné Palestine aura lieu du 7 au 15 mars. Et enfin, j'ai oublié, samedi 12 février, la soirée de soutien à Saveur d'Exil à 18h à l'itinéraire bis, 22 rue Périole.
Merci beaucoup.
Merci
Fanny.
Merci Fanny pour ton témoignage. C'était super.
Merci au bocal. Farah, c'était super cet agenda.
Merci les techniciens. Quelle belle voix de radio, Farah. Voilà, c'est la première fois que je t'entends parler à la radio finalement.
Et on se retrouve le 8 mars, c'est ça ? Bah, je crois, ouais.
Bon, j'ai été ravie de te rencontrer, Fanny.
Merci.
On ne vous entend
pas
à la technique.
On
t'entend
pas très bien. La prochaine émission, c'est le 8 mars, nous dit June.
Voilà.
Avec une chronique Netflix. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
We'll be right back.